vue d'ensemble de l'actualité.
Est-ce que tout le monde va passer de secondaire 2 à secondaire 3? Est-ce que tout le monde va passer de secondaire 3 à secondaire 4? Puis on fera les ajustements lors de la rentrée scolaire à l'automne.
La réponse très simple, M. Arcand, c'est non. On ne va pas donner un ticket à tout le monde, peu importe les difficultés ou les retards. Il y avait déjà des élèves qui avaient des retards ou des difficultés ou des échecs avant la pandémie. Là, on fait tout pour que tous les élèves rattrapent et de la facilité puis maîtrisent les savoirs essentiels.
Trêve PM.
OK, Jean-François Roberge, le ministre de l'Éducation, ce matin à l'émission de Paul. C'est la journaliste Louise Leduc qui pose la question dans son reportage d'aujourd'hui. En pandémie, est-ce qu'on peut faire échouer un élève? Je vous ai demandé ce que vous en pensiez. J'ai quelques courriels et textos. J'ai François qui me dit « Je crois que les élèves en difficulté devraient avoir le choix, doubler ou passer à la prochaine année. Bonne discussion avec les parents pour comprendre la situation de l'enfant. » J'ai Patrice qui me dit « C'est pas une bonne idée de faire passer tous les élèves si on procède de cette manière. Beaucoup d'étudiants ne mettront plus les efforts nécessaires puisque ça n'aura aucun impact. » C'est un très bon point. Effectivement, j'en ai un certain nombre qui me disent, tu sais, un élève qui aurait passé haut la main va pas couler à cause de la COVID. Ouais, mais moi, je pense à ceux qui sont un peu sur la fesse, là, un peu sa ligne. Là. Alors, évidemment, le ministre a beau dire, non, on va pas faire passer tout le monde. C'est pas lui qui décide des notes sur le bulletin. C'est les enseignantes puis les enseignants. Et là, Pascal Benoît dit, j'étais enseignante au primaire. Bonjour, Madame Benoît.
Bonjour, M. Drainville.
Content de vous retrouver parce que là, dans le papier de Louise Leduc ce matin, donc, on s'aperçoit qu'il y a des enseignants et des enseignantes qui vivent une sorte de dilemme. Quand vient le temps de donner des notes, il y a toutes sortes de manières de faire. Puis il y en a qui disent, écoute, je me vois pas couler un élève dont je sais pertinemment qu'il aurait réussi ou qu'elle aurait réussi s'il n'y avait pas eu une pandémie. Vous, comment vous gérez ça?
C'est sûr que dans le papier là, que j'ai lu, ça parle un peu plus du secondaire. Donc, je pense qu'au primaire, en partant, la réalité est différente parce qu'on connaît vraiment mieux nos élèves, parce qu'on en a beaucoup moins. Tu sais, au secondaire, ils ont plusieurs groupes. Nous, on n'a qu'un seul groupe ou deux dans certains cas. Mais bref, on connaît beaucoup mieux nos élèves puis leurs capacités. Mais c'est sûr que ça pose des questions éthiques, à savoir quel poids dans notre jugement d'évaluation on donne aux conditions actuelles. C'est sûr que ça peut soulever des questionnements qui n'ont jamais existé avant.
Alors, comment vous répondez à ces questionnements, Pascal Benoît?
Je pense que ça ramène un débat qui est très vieux en évaluation, c'est-à-dire de se pencher sur notre manière d'évaluer. C'est sûr que si présentement un enseignant fait beaucoup, beaucoup d'évaluations formelles, d'évaluations papier, il peut voir que son élève a beaucoup de difficultés à suivre, a des résultats, par exemple, entre 50 et 60 %. Je pense que c'est d'autant plus important maintenant d'avoir une multitude de façons d'évaluer les enfants par des observations, par des entretiens avec eux. Je pense que c'est ça. Moi, je m'ajuste à la pandémie en m'assurant de connaître le mieux possible chaque enfant puis ses capacités. Puis moi, j'ai de la chance cette année, j'ai une classe avec des enfants qui n'ont pas trop de difficultés. Mm-hmm. Mais dans le cas où un enfant serait en grande difficulté, je ne vois pas le bienfait de ne pas indiquer les difficultés. Donc, si un enfant à 50 %, oui, 50 %, c'est une note. Puis je pense qu'en tant que parent, on n'aime pas ça, voir cette note-là dans un bulletin. Mais ce qui est surtout important, c'est, votre enfant a besoin d'aide sur telle chose, et voici comment on va l'aider. Si on donne 60 % à tout le monde, mais on ne sait pas qu'il y a 50 puis qu'il y a 40 puis qu'il y a d'autant plus besoin d'aide.
Ah non, je moi, comprends très bien. Mais est-ce que, au-delà de la note, Pascal Benoît, est-ce que vous vous demandez, tel élève va-t-il être capable, va-t-elle être capable de passer à l'année suivante, est-ce qu'elle va arriver suffisamment outillée pour commencer à peu près correctement l'année prochaine? Et si oui, à ce moment-là, tu te dis, OK, je vais la faire passer. Mais si tu as un doute sur sa capacité de réussir l'an prochain, ça se peut que tu te dis, je vais pas la placer dans une situation d'échec potentiel l'an prochain. Je suis mieux de la garder pour une autre année encore au même niveau et donc de ne pas la faire passer. Est-ce que c'est comme ça que vous raisonnez?
Bien, je pense que ce questionnement-là est chez chaque enseignant à chaque année. On veut le meilleur pour l'enfant, puis c'est sûr qu'à chaque année, on doit se poser ces questions-là. Tu sais, qu'est-ce qui est le meilleur pour le développement de l'enfant? selon justement les circonstances. Par exemple, un enfant qui aurait eu une année très difficile parce que il y a eu des circonstances spéciales dans sa famille, ben on va peut-être décider de le faire passer quand même parce qu'on sait qu'il a les capacités. C'est des questions qui sont pas nouvelles chez les enseignants. Maintenant, c'est sûr que ces questions-là vont probablement se passer un peu plus à la fin de cette année scolaire. Mais les enseignants ont aussi en tête, moi, l'année prochaine, quand je vais recevoir, par exemple, mes élèves de troisième année, mais je vais garder en tête, comme au début de cette année, que ces enfants-là ont un parcours pandémique, entre guillemets, et que je dois, moi aussi, en tant qu'enseignante, ajuster mon point de départ. Mon point d'arrivée est le même. Tu sais, je veux qu'ils aient, à la fin de la troisième année, les acquis de la troisième année. Mais ça se peut qu'ils doivent reculer un petit peu puis faire la deuxième année pendant un petit peu plus longtemps pour pouvoir ensuite les amener en troisième année. C'est beaucoup d'ajustements chez les enseignants. Je pense que c'est ça aussi qu'il va falloir qu'on garde en tête là, au début de l'année prochaine.
Oui, vous avez absolument raison. Il va falloir s'ajuster tout le monde. Ouais. Pascale Benoît, enseignante au primaire. Merci beaucoup, Pascale.
Mais ça fait plaisir. Bonne journée.
Bonne journée. Et là, on va aller rejoindre un enseignant du secondaire. Sébastien Richard, bonjour.
Bonjour.
Sébastien, comment vous gérez ça, vous?
Ben, je dois dire que c'est, je me retrouve assez bien là, dans les propos que ma collègue vient de tenir. Pour moi, en tout cas, c'est pas mal business as usual. Ce que je veux dire par là, c'est que on les connaît nos élèves. Plus on avance dans l'année, on a vu les difficultés qu'ils ont. On a vu quels sont dans quel contexte ils vivent aussi, parce que ça, c'est une variable qui est très importante. Et puis, on est en mesure d'apporter un soutien ciblé à certains élèves qui ont plus de difficultés pour voir si ça va pas donner des résultats. Mais en fin d'année, si on en vient à la conclusion que malgré les difficultés de l'année, puis malgré une note qui est limite, on a la conviction que cet élève-là est prêt à passer au niveau suivant, on va lui donner sa note de passage, mais c'est parce qu'on a cette conviction-là. Oui. Moi, en ce moment, j'en ai des élèves, je sais que j'aurai à me poser cette question-là à la fin de l'année, qui est une question qu'on se pose à chaque année pour un certain nombre d'élèves. Mais je sais aussi qu'il y en a d'autres qui ont décidé de se mettre les deux mains sur le derrière et de ne pas travailler. Eux, ils passeront pas, là.
Et donc, eux vont devoir, ils vont doubler. Ils vont devoir refaire le même niveau.
Ben, eux, ils vont assumer le fait qu'ils n'ont pas travaillé, puis on vient justement d'avoir la deuxième rencontre avec les parents, puis ces parents-là ont été avisés de la chose, puis il y en a qui comprennent très bien la situation. Il dit j'ai beau travailler avec mon enfant à la maison, mais il fait pas l'effort nécessaire, ben, il va assumer. Donc, c'est quelque chose qui, j'ai envie de dire que c'est le cours normal d'une année scolaire.
OK. Mais est-ce que vous en avez plus qu'à l'habitude des élèves qui pourraient ne pas passer?
Bon, si je me fie à notre école, nous, en tout cas, le niveau de notes qu'on a cette année, selon la direction, il est comparable et même un peu supérieur à celui de l'année passée. Donc, moi, en ce qui me concerne, je sais qu'à la fin de l'année, les élèves auront vu tous les éléments reliés à la matière que j'enseigne et que l'année sera complétée puis comme il faut. Maintenant, évidemment, selon les milieux, selon les écoles, selon un paquet de facteurs, ça peut être différent ailleurs. Bien sûr, mais chez nous, en tout cas, ça roule.
Est-ce que vous avez remarqué, Sébastien Richard, que dans certains cas, des élèves ont surperformé à cause de je sais pas, parce qu'ils étaient à l'aise avec l'enseignement à distance? Est-ce que vous vous êtes dit, tu sais, lui ou elle, j'ai l'impression que ça, tu sais, elle vivait bien avec l'enseignement à distance. C'est un format, c'est une méthode qui l'aide plutôt que de lui nuire.
C'est sûr que des élèves, par exemple, qui ont le syndrome Asperger, pour qui la socialisation est difficile, ces élèves-là, le fait qu'ils se retrouvent chez eux, dans leur univers à eux, sans avoir à être confrontés à la socialisation, ça peut leur être bénéfique. Ça, il faut le reconnaître. Mais il y a une autre variable qui est importante, c'est que pour les élèves de 3, 4 et 5, qui sont une journée sur deux à l'école, il y a des fois où logistiquement, là, on est pogné, là, parce que ça donne qu'on les verra pas, puis on est rendu à un moment où on doit leur administrer un examen. Donc, il est arrivé une fois dans mon cas, avec les collègues de mon niveau aussi, on a fait la même chose, on n'avait pas le choix, on a fait un examen virtuel. C'est sûr que l'examen virtuel, là, on voit pas les élèves, oui. On sait pas quel genre de combine ils ont trouvé. Donc, je vous dirais que dans ma classe, il y en a une pour qui je me pose la question. Mais pour les autres, là, quand je regarde les résultats, là, ils étaient sensiblement les mêmes que ceux qu'on avait eus jusqu'à maintenant. Donc, c'est certain qu'on a fait cet examen virtuel-là parce que c'était dans l'organisation de l'année, on n'avait vraiment pas le choix de le faire, mais c'est certain que c'est pas une façon de faire que je privilégie.
Sébastien Richard, enseignant au secondaire. Merci, Sébastien.
Avec plaisir, au revoir.
Au revoir. J'ai Lucie qui m'écrit, elle dit « Pourquoi est-ce qu'on nivellerait tout le monde? » Ceux qui ont réussi malgré la pandémie puis qui ont fait des efforts, là, c'est pas correct pour eux autres. Alors, Lucie trouve ça injuste de faire passer tout le monde. Là. Quelqu'un d'autre me dit, si on les laisse passer à cause de la COVID, elle dit, je mettrais une condition, faire des cours d'été, donc des cours de rattrapage, pour les renforcer durant l'été dans les matières où ils ont passé faiblement pour ne pas traîner la patte l'année suivante. Je trouve ça intéressant. Et, ajoute-t-elle, c'est Joanne, elle dit, ils sont où les tuteurs? Le ministre de l'Éducation a promis des tuteurs, des tutrices. Ben, je vais vous dire franchement, Joanne, la semaine passée, on a essayé de savoir combien ce qu'il y avait de tuteurs, tutrices qui étaient en place pour le retour aujourd'hui. Et le bureau du ministre ne le sait toujours pas parce qu'il dépend des centres de services scolaires, les anciennes commissions scolaires, pour leur dire. On va réessayer jusqu'à temps qu'on ait une réponse. Mais honnêtement, je trouve ça border ridicule qu'on soit rendu au mois de mars et qu'on sache toujours pas combien est-ce qu'il y a de tuteurs et tutrices pour aider nos élèves en difficulté. Je veux dire, là, à un moment donné, on va le savoir quand? Au mois de mai? Hein? Ça n'a pas de bon sens. Après la pause, on va parler à une survivante.